Alors là, c'est vrai. Je suis très heureuse de vous accueillir à cette table ronde intitulée « Des mots ou mythologies ». Avant de laisser la parole à nos conférenciers, je me permettrai de vous rappeler le sujet de cette table ronde en lisant la petite description qui accompagne le programme. Alors, la langue n'est jamais neutre. L'apparition et la disparition des mots, le choix de certains, le refus d'autres, tout cela dit quelque chose d'un état de société et de ses mythologies. Qu'en est-il de la Belgique et du Québec d'aujourd'hui? Quels sont les mots du jour et les mots de passe qu'on y entend? Alors, je n'ai pu m'empêcher de jouer jeu en me laissant envahir ou contaminer, c'est selon, par les mots et les expressions du Dictionnaire québécois instantané, d'ailleurs rangé parmi les ouvrages de référence à la Bibliothèque des lettres et sciences humaines. Alors, ce sera court, mais éloquent. Petite présentation. Cette table ronde, ou forme circulaire du sommet, sera pour vous l'opportunité d'entendre trois universitaires certifiés qui focuseront sur leur cheminement et leur expertise et nous conscientiseront à l'exception culturelle de deux communautés. Ils se positionneront au cœur du contenu, donneront leur 110%, en deux mots, performeront genre. Alors, je laisse au lexicographe le soin de me corriger ou de me traduire. Passons maintenant aux choses sérieuses. Donc, le déroulement de la table ronde sera simple. Je donnerai la parole à nos trois conférenciers. D'abord à M. Klinkenberg, ensuite à Benoît Melançon et enfin à Pierre Popovic. Et chaque intervention dure environ 10 minutes et elles seront suivies d'une discussion en plénière. Donc, je présenterai sérieusement cette fois notre premier invité. Alors, Jean-Marie Klinkenberg enseigne les sciences du langage à l'Université de Liège, mais est aussi spécialiste des cultures francophones. Il a présidé 12 ans durant le plus ancien centre d'études québécoises d'Europe. Dans la première orientation, il a participé à la rénovation de la rhétorique au sein de l'équipe interdisciplinaire qu'est le groupe MU et a contribué à redéfinir la sémiotique dans une optique cognitive. Dans la seconde, il a renouvelé l'approche des lettres belges en envisageant celle-ci dans une optique institutionnelle. Il a publié « Précis de sémiotique générale » en 2000, « La langue et le citoyen » en 2001, « La littérature belge » en 2005 et « Petite mythologie belge » en 2009. Membre de l'Académie royale de Belgique, il préside l'International Association for Visual Semiotics et est président du Conseil de la langue française et de la politique linguistique de son pays.
Voilà, il aurait peut-être fallu ajouter que j'ai été professeur visiteur dans ce bâtiment, quelle émotion. Mais c'était à un moment assez éloigné de celui-ci. Et si je dis conseil, vous douterez que je puisse, avec le tout le temps qui a passé, encore performer grave. mes vieux camarades, mes vieux planqués, pour utiliser un mot qui n'a pas couru ici, m'ont demandé de participer à cette table ronde, et notamment en l'occasion de cette parution de Petite mythologie. Et donc, il y a cette question des mythologies. Je vais essayer de définir, ce sera ma contribution sérieuse, ce qu'on peut entendre par là. Mais peut-être, est-ce que je peux me permettre de dire comment ce livre est né? Il se fait que un point commun entre les Belges et les Québécois, c'est que ils parlent tout le temps d'eux-mêmes. Ils parlent tout le temps d'eux-mêmes, mais dans des phrases qui se terminent par des points d'interrogation. Hein. À vrai dire, les affirmations massives sont un peu plus fréquentes au Québec qu'en Belgique, mais quand même, en gros, c'est la question. Qu'est-ce qu'on est? D'où viens-je? Où vais-je? Dans quelle étagère et à quoi sers-je? On connaît. Comme tout Belge, et surtout comme tout Belge qui, à un moment donné, a dû comparer la culture francophone belgique aux autres, et notamment la québécoise, je me suis évidemment posé la question. Et un jour, j'ai eu une illumination. Cette illumination, je l'ai ressentie pendant les vacances à la côte belge. C'est là que vont tous les Belges qui prennent des vacances en famille. Je me suis dit, mais oui, bon sang, mais la Belgique existe. Elle existe 60 jours par an sur une bande de terre de 60 km de long et large de 200 mètres, la côte. Là-bas, comme par miracle, tous les affrontements cessent. Et là, il y a véritablement une culture unitaire, spéciale, avec sa cuisine, ses mœurs, son architecture. Donc voilà. Alors, me souvenant que j'avais aussi étudié la Bible, jadis j'ai écrit un petit texte intitulé « Un pays né d'une côte ». Et donc, certains m'ont dit « C'est le meilleur texte que tu as jamais écrit ». ce qui n'est évidemment pas, ce que je n'ai pas tout à fait pris comme un compliment. Et surtout, j'ai vu qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la réception de ce texte. Pour les uns, c'était « mon Dieu, comme c'est bien ça ». Il y avait cette espèce de complaisance. On nageait dans la frite et dans le sirop d'érable à la fois, comme c'est bien cela. Et d'autres disaient ah « ben ouais, enfin, il y a un peu de distance ». Donc, à la fois, il semblait qu'il y avait dans ce que j'avais fait là une sorte de connivence et une distance. Alors du coup, d'autres m'ont dit « mais il faut que tu en fasses d'autres ». Et moi, je travaille beaucoup sous la contrainte, bien sous la contrainte. Donc quand on m'a dit que tu dois faire d'autres textes, j'en ai fait d'autres. Et je me suis posé la même question. Je suis donc allé voir du côté de la cuisine, du côté de la manière de bâtir, la manière de parler français et d'avoir des opinions sur la manière dont on parle français. Et donc, ça a donné ce livre, Petite mythologie belge, avec petite parce qu'il est pour certains un peu redondant par rapport à belge, mais simplement parce que ce sont des vignettes, hein. Et mythologie, là, c'est évidemment un clin d'œil à Barthes. Un clin d'œil à Barthes qui a très bien décrit le Tour de France, le beefsteak frites qui permet d'assimiler la francité. Et donc, du coup, alors certains m'ont dit, mais c'est merveilleux, tu réussis, il était temps, à unifier ton être, puisqu'à la fois tu es sémioticien et tu fais de la sémiotique, parce que ce qu'on fait, et nous approchons quand même du sérieux, là, ici, ce qu'on fait, c'est donner du sens aux choses, à la nourriture, à l'espace. Donc, au fond, sans qu'il n'y ait la technicité, c'est bien de la sémiotique. Mais de la sémiotique qui, ici, fait sa jonction avec toutes ces questions de type sociologique et ou anthropologique que j'avais pu me poser sur les questions francophones. Alors du coup, et là on devient vraiment sérieux, c'est que il me semble qu'on ne peut jamais traiter les questions d'identité comme des essences. C'est ça qui fait des discussions infinies, c'est de se mettre sur le plan de l'essence, alors que les identités sont des constructions, et sont des constructions qui passent par le discours, et les voilà, les mots, passent par le discours, et au fond, il y a toujours une double couche. D'une part, il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de substrat objectif, les températures à Montréal, c'est un substrat objectif, le degré d'ensoleillement, la latitude ou la longueur de la côte belge, ce sont des données objectives, mais c'est donc le discours qui s'empare de ce donné pour l'ériger en phénomène signifiant. Donc, du coup, faire étudier les mythologies, c'est se doter d'une espèce de protocole de décodage, non pas du réel, mais un protocole de décodage du langage, du discours sur le réel. Donc, l'identité, c'est une sorte de sens donné, et donné collectivement, évidemment, à des éléments qui, comme tels, n'ont pas de sens. La température de Montréal n'est pas dotée de sens, a priori. C'est un discours qui vient lui donner ce sens-là. Alors, bien sûr, comme toujours, il faut chercher de savoir à qui le crime profite, qui fait ce sens, qui le produit, quelles sont les instances qui sont là derrière. Et bien sûr, on s'aperçoit vite qu'il y a des couches qui se superposent. Certains de ces mythes viennent de très 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 loin et nous les véhiculons alors même que nos opinions sont contraires à ce mythe, un petit peu comme aujourd'hui, un athée peut parfaitement commencer une phrase en disant « Oh mon Dieu !» Nous véhiculons des visions anciennes qui sont là, stratifiées dans nos langages. Alors, grands thèmes qui sont récurrents, et il me semble que ce sont des thèmes qui sont évidemment parallèle dans tous les discours qui sont communs, tous les discours identitaires et en tout cas par le parallélisme belgo-québécois, je vois plein ici. Il y a évidemment d'une part l'appropriation de l'espace, comment est-ce qu'on le gère et comment est-ce qu'on dit qu'on le gère. Là, la manière dont on le fait est évidemment très très différente. La Belgique, contrairement à ce qui se passe ici, c'est un pays qui a une densité de population énorme, et là Il y a des gens qui traversent ce pays en croyant qu'ils entrent dans une ville et qu'ils ne la quittent pas jusqu'à l'autre frontière. C'est un petit peu comme si toutes les villes étaient une espèce de ballon rempli d'eau et dans lequel on avait percé des tas de petits trous et les villes coulent le long des routes. Un randonneur qui fait par exemple le sentier de grande randonnée numéro 5 qui va de Rotterdam à Nice, je ne l'ai pas fait entièrement, mais quand il est en Hollande, il voit où est la ville, elle est là à droite. Et la campagne, elle est là, à gauche. Et le sentier est à la jonction, et on ne confond pas les autres. Les Belges ont réalisé la formule d'Alphonse Allais, construire les villes à la campagne, parce que l'air y est plus pur. C'est une des petites mythologies, c'est celle-là. Une autre chose récurrente, c'est évidemment le grand voisin. C'est évidemment le grand voisin, c'est cette espèce d'insécurité qui accompagne le Belge, mais en général le francophone périphérique, n'est-ce pas? Tout francophone périphérique est quelqu'un qui souffre d'une espèce d'hypertrophie de la glande grammaticale et qui croit que il y a un endroit dans le monde qui est le paradis du langage. Cette insécurité qui a de bons côtés, parce que cette insécurité amène à des audaces. On sait très bien que quand vous dites « Tiens, ma langue est malade », il y a deux possibilités. C'est « Tiens, je vais la soigner, je vais donc prendre les pilules du bon docteur Hans ou la potion du bon docteur, du bon curé Grevis, de Belge comme par hasard. » Mais l'autre possibilité, c'est évidemment de dire « Ah, ma langue est malade, tu vas voir ça, je m'en vais te mettre tout ce qu'il y a comme dysfonctionnement chez moi dans une espèce de soupe et on ne reverra plus ce qui est faute, ce qui n'est pas faute. » Il y a donc une espèce de stimulation à l'inventivité. Mais ce rapport avec le voisin n'est pas que linguistique, il y a aussi, c'est ce voisin, pour nous en tout cas, qui aide très fortement à construire l'identité parce qu'elle permet de dire l'altérité. Pas seulement l'altérité linguistique, mais aussi une altérité éthique, esthétique, sociologique. Il y en a pour qui c'est toujours mieux ailleurs, il y en a pour qui c'est moins bien ailleurs. Mais en tout cas, la France permet aux Belges de gérer sa petite, ce qu'il appelle sa petitesse. Oui, d'accord, on est petit, mais, ou bien, oui, comme c'est dommage, on est petit. Donc, plusieurs options possibles, mais c'est quand même toujours le voisin qui aide à tenir ce discours-là. Je m'arrête parce que 10 minutes 27 secondes.
Ah bon. Voilà. Merci. Donc, je présenterai notre deuxième conférencier, Benoît Melançon, qui est directeur du département des littératures de langue française de l'Université de Montréal et directeur scientifique des presses de cette université. Ses plus récents livres sont L'incontournable, Les yeux de Maurice Richard, une histoire culturelle qui a été publiée en 2006 et traduit en anglais en 2009. Et Bangkok, note de voyage, qui vient de paraître chez Delbusseau Éditeur. Alors, en 2004, il faisait paraître avec Pierre Popovic le dictionnaire québécois instantané. Depuis juin 2009, il tient un blog sous le titre « L'oreille tendue ».
Merci. Alors, je vais commencer d'ailleurs par dire un mot de ce blog et du projet qu'il soutient avant d'essayer de proposer quelque chose qui est peut-être une mythologie ou qui renvoie en fait à l'anthropologie québécoise, on verra tout à l'heure. Alors, il se trouve que je m'intéresse au numérique depuis très très longtemps. Je fais une bibliographie sur le 18e siècle depuis 1992. J'ai écrit un livre sur le courrier électronique il y a presque 15 ans. Alors, quand j'ai vu apparaître le blog, je me suis dit, tiens, il faudrait bien que je fasse un blog. Et pendant de nombreuses années, j'ai réfléchi à l'affaire sans savoir sur quoi je pourrais le faire. Et il se trouve que j'ai dirigé l'année dernière un mémoire de maîtrise sur ce que c'est qu'un blog. Et subitement, en dirigeant ce mémoire, j'ai eu l'illumination, alors. Deux fois. Hein. Jean-Marie en a eu une, j'ai eu la mienne aussi.
Je suis sûr que Pierre,
il nous en nous fournira une tout à l'heure. Alors, un blog, pour que ça marche, disait cet étudiant dont j'ai dirigé de mémoire, Éric Vignola, c'est que ça prend un sujet précis, ça prend de la régularité. Alors, je dis, bon, sujet précis, sur quoi est-ce que je voudrais écrire de façon régulière? Et je me dis, tiens, ça fait quand même pratiquement une vingtaine d'années que j'écris des choses sur la langue, alors le blog s'y prêterait assez bien. Alors, ce qui m'intéresse dans ce blog qui s'appelle, Martin Emmanuel le disait, L'oreille tendue, c'est la vie de la langue. Alors, comment la langue bouge? essentiellement la langue d'aujourd'hui, bien sûr, parce qu'on peut saisir cette transformation assez facilement, mais aussi à l'occasion de la langue du passé, avec certains mots qui sont disparus. Alors, j'ai lu récemment un texte d'Henri Bourassa, où j'ai découvert qu'Henri Bourassa voulait que les Canadiens anglais s'appellent des anglochtones plutôt que des anglophones. Alors, manifestement, on est du côté de Moloch plus que du fun. Alors, ça n'a pas très bien marché sur le plan euphonique, c'est pas génial. Donc, c'est le genre de choses qui m'intéressent. Alors, ce qui bouge, ce qui change dans la langue, ce qui apparaît, ce qui disparaît, les mots à la mode, les mots récurrents, les refrains, et évidemment, à partir de là, essayer de voir ce que ça peut révéler du fonctionnement d'une société. Alors, en théorie, je ne suis pas trop dans le normatif, alors j'essaie de ne pas faire de colonne du genre « ne dites pas, disez plutôt ». Il y a un Belge qui a fait ça à une époque dont je n'arrive plus à retrouver le nom, c'est assez joli. J'ai évidemment mes détestations. Je ne vois pas pourquoi les gens ne meurent pas, je ne comprends pas pourquoi les gens décèdent, je ne sais pas pourquoi les gens ne partent pas, je ne sais pas pourquoi les gens quittent. Donc j'ai mes bêtes noires, mais ce n'est pas de ça dont je veux vous entretenir. Alors j'ai relu récemment là, les textes que j'ai consignés dans ce blog depuis juin 2009, et j'ai été frappé par une tendance, une récurrence assez forte, qui ne me paraît pas être récente. Ce que je vais essayer de présenter, ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose qui me paraît exister au Québec depuis assez longtemps, ça me paraît être révélé par le langage, mais ça me paraît être tout à fait profond. Ce n'est donc pas une conclusion définitive. Ce que je vais essayer de pointer, c'est cette tension qui me paraît importante. Alors, cette tension, elle oppose deux choses. Elle oppose, d'un côté, ce qui relèverait du rêve de grandeur, de la supériorité. Bien sûr, j'essaie de saisir ça dans la langue. Alors, ce que je vais essayer de trouver, ce sont les occurrences du mot « leader ». Le Québec est le leader mondial du décrochage scolaire. Le Québec est le chef de file du développement durable. Donc ça, c'est le rêve de grandeur, c'est le rêve de supériorité, mais ça s'incarne particulièrement bien, me semble-t-il, dans un mot, alors parfois au singulier, parfois au pluriel, et là, ça marche très très bien, c'est le mot « capitale ». Montréal est la capitale du jeu vidéo. Québec, malgré qu'elle veuille changer d'identité, semble-t-il, est la vieille capitale. Drummondville est la capitale mondiale des cultures. Saguenay est une des capitales canadiennes de la culture. Trois-Rivières est la capitale mondiale, internationale, de la poésie. Alors, j'en donne quelques exemples comme ça, mais on pourrait les multiplier. Le mot capitale revient partout. Le mot chef de file, le mot leader. Et tout ça me semble pointer vers cette volonté, donc, de grandeur, de réussite, d'affirmation. Et à côté de ça, il y a bien sûr ce trait québécois qui a sûrement frappé Jean-Marie au fil de ses années au Québec, qui est la familiarité, la connivence, la grégarité, le groupe. Alors non pas l'élévation, mais le petit, le resserré. Ça s'incarne de toutes sortes de façons, encore une fois, dans la langue. Alors en faisant le dictionnaire québécois instantané, on s'est amusé avec Pierre à établir une liste des festivals ou festivaux, mettez le pluriel que vous voulez, mais des festivals québécois, et ils sont très 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 nombreux, on en a même inventé un pour le plaisir. Pierre a fait un texte un jour sur le festivalesque, donc très effectivement de grégarité très très forte, les gens se rassemblent autour de la tomate, de la poutine ou de quoi que ce soit. Là on est dans la connivence, on est dans la familiarité. Le tutoiement évidemment fait aussi partie de cette connivence et de cette familiarité, jusque et surtout je dirais dans la publicité. Alors, quand la ville de Montréal a lancé sa bicyclette en libre-service l'été dernier, hein, on me disait bien très clairement « pédale avec ta tête ». Donc c'était un des slogans qui est assez bon d'ailleurs, je trouve, mais qui marche évidemment au tutoiement. Et toutes les publicités du Bixi, puisque c'est comme ça que la bicyclette s'appelle, sont à la deuxième personne du singulier. Ça passe aussi, ça c'est un aspect plus difficile à saisir probablement, cette familiarité, ça passe aussi parfois tout simplement par l'accent. Et là je pense à une très très mauvaise publicité qui circule actuellement, notamment pendant les matchs de hockey, qui est la publicité des charcuteries La Fleur. Alors, c'est une publicité assez forte parce qu'elle est d'une pauvreté considérable et évidemment qui s'accumule, plus on la voit, plus on la trouve pauvre. Et il y a là-dedans une utilisation de l'accent qui est tout à fait étonnante. On entend des phrases du genre « quand on pense jambon, on pense la fleur ». J'avoue qu'entendre ça, c'est toujours un peu étonnant. Mais évidemment, c'est parfaitement repérable et parfaitement compréhensible. Toujours dans ce registre de la familiarité, je suis assez frappé par, encore une fois, la langue publicitaire est un très bon réservoir. Je suis assez frappé par la récurrence des fautes de langue grossières dans les publicités. Alors, la fleur, c'est... J'aime bien cette publicité, vous voyez. La fleur, c'est... Qu'est-ce que tu dirais que je te fais un bon petit déjeuner? Chez Ford, c'est... Amène-moi une pinte de lait. Chez Samsung, c'est le pool de hockey le plus excitant que tu as participé. Alors, c'est pas tellement la faute qui m'intéresse, c'est bien sûr qu'il y en ait plusieurs, et c'est surtout que j'imagine, il n'y a pas une personne toute seule qui fait ses publicités. Donc, j'imagine 12 personnes réunies autour de la même table, entendre la phrase « le pool de hockey le plus excitant que tu as participé », et personne ne tique. C'est assez frappant, et, hein, on parle comme ça, hein, c'est la langue commune, c'est la langue courante, faire une faute comme ça, c'est pas grave. Il y a aussi des expressions, alors là, j'ai dit tout à l'heure que cette tension entre grandeur, disons, d'une part, et familiarité, d'autre part, elle n'est pas nouvelle, mais il y a des expressions, elles, qui sont nouvelles, qui la marquent, et il y en a une assez récente qui me frappe, et c'est « on s'entend-tu que ?» Le « on s'entend-tu que ?» c'est effectivement « nous sommes bien d'accord, hein, on se comprend bien ». Alors, j'ai essayé de trouver une façon de faire tenir ensemble ces deux aspects de la tension, le rêve de grandeur ou de supériorité, et la familiarité. Alors, j'aurais pu l'incarner, cette tension, dans une personne, prenons au hasard Céline Dion, qui est évidemment le genre de personne à dire « mon rêve dans la vie, c'est d'aller faire mon épicerie toute seule et que personne ne me reconnaisse. » Et donc là, vous avez la vedette mondiale, multimillionnaire, qui rêve d'être, bien sûr, dans la familiarité. Ça aurait été une façon de procéder. Je vais plutôt utiliser une expression qui, elle aussi, est nouvelle, comme « on s'entend-tu que », mais une autre, que j'entends régulièrement ces temps-ci, qui me semble marquer cette fusion, cette tentative de résolution de la tension dont je parle. En fait, c'est un verbe, c'est le verbe « regarder », qui ne se dit jamais « regarder », mais qui se dit « regarde » ou « garde », toujours accompagné de « là ».« Regarde, là » m'a expliqué comment ça marche l'université. Alors, ce « regarde-là », qui est très, très fréquent, c'est à la fois la connivence. « Je vais t'expliquer. Regarde, on est ensemble. » C'est jamais « regarder hein. ». C'est jamais « regarder, là ». C'est toujours « regarde-là ». Donc, on est toujours dans la familiarité, à la deuxième personne du singulier, dans la volonté d'expliquer, donc de transmettre un message. Mais en même temps, il y a dans cette expression-là aussi un zeste de supériorité, puisque la personne qui dit « regarde-là », elle a ce savoir. Elle est différente de l'autre puisqu'elle veut le transmettre. Et à la limite, il y a même dans cette expression quelque chose qui relève de la menace. Hein. « Regarde, on m'a expliqué et t'es mieux de comprendre. » Il y a ça aussi derrière cette expression. Vous savez peut-être d'ailleurs que le verbe « regarde » dans ce cas-là est le verbe favori d'un personnage québécois relativement nouveau qui est la Germaine. La Germaine est dans cette femme qui gère et qui mène. Alors, on n'est peut-être pas dans la mythologie quand on est devant cette tension. On est peut-être dans quelque chose de plus profond. On est peut-être dans quelque chose qui relève de l'anthropologie, qui est à la fois la volonté de sortir de soi, mais tout en restant entre soi. Et en lisant les petites mythologies belges de Jean-Marie Klinkenberg, je suis tombé sur une phrase qui m'a incité à proposer un équivalent. Alors, dans un de ses textes sur la cuisine, Jean-Marie dit... il s'agit de rabattre le lointain sur l'intime. Alors, il est là question de cuisine et de cuisine belge. Si j'essayais de trouver l'équivalent pour la culture québécoise d'aujourd'hui, je dirais quelque chose comme « il faut enfermer le grand dans le petit ». Et la langue permet de mettre en lumière cette proposition d'action. Merci.
Merci. Et notre dernier, j'utilise le possessif, c'est curieux. Le dernier conférencier, Pierre Popovic, professeur au département de littérature de langue française et l'un des animateurs du Centre de recherche interuniversitaire en sociocritique des textes, le CRIST. Et.
Non. Ex-joueur de football.
Joueur de football.
Il va se présenter lui-même, puisque une feuille a disparu.
Une feuille a disparu, non, je peux continuer. Il a publié récemment un recueil de nouvelles intitulé « Lodie ». Il habite le plateau et non le plateau adjacent. Et sa communication, puisqu'il nous a donné un titre, porte le titre « La posturite H1N1 ».
Oui, la posturite H1N1. Merci. Moi, je vais parler d'un mot, puis ça vient du fait que je suis fasciné par Nemo depuis toujours, depuis tout petit, et puis il n'est pas impossible d'ailleurs, ça m'est venu en écoutant Jean-Marie Parnet, que cette fascination pour le mot soit pour une part la trace de ma belgitude. J'ai toujours pensé que les Français parlaient en phrases et que nous, les Belges, on parlait en mots. Et même quand je lis des écrivains comme Camille Lemonnier, par exemple, il a beau faire de longues phrases, je sens bien que chez lui, ce qui importe, c'est pas la phrase, c'est pas la syntaxe, c'est le mot. Et je pense qu'on a une fixation comme ça, peut-être fétichiste là-dessus. En tout cas, j'ai tâché de transformer mon fétichisme en plaisir. Donc, je vais faire devant vous en suivant à la trace, en vous montrant comment j'ai suivi à la trace, un mot qui m'apparaît aujourd'hui vraiment faire partie du prêt-à-dire ou du prêt-à-penser contemporain, qui est le mot posture. Et puis, je vais simplement décrire ici, pendant les 10 minutes qui viennent, la façon dont je l'ai trouvé. Puis, j'ai bien des idées pour essayer d'expliquer les raisons de son succès, mais ça sera pour après, pour la discussion, ou pour plus tard, ou pour si je fais un texte de ce machin-là un jour. Disons que pour trouver un mot comme ça, à moi qui travaille avec des outils comme le concept de discours social, dont nous avons ici le principal propriétaire dans la salle, il est important pour moi de voir qu'un mot comme ça circule vraiment dans un grand ensemble de sphères de discours et de pouvoir me montrer. Sans quoi j'aurais un peu trop peur en prenant un mot simplement comme ça et puis en faisant, disons, un peu d'ironie dessus, parce qu'inévitablement on finit par en faire, notamment quand on fait des dictionnaires, on ne veut pas être plate, donc dans un glossaire, de temps en temps, on fait, disons, une sorte d'ironie légère, enfin aussi légère que possible. Donc il faut un peu se méfier de soi-même, et pour ne pas, disons, justement faire des fixations trop idiosyncratiques, il importe de regarder des mots qui circulent vraiment sur toute une carte de discours social. Donc, parmi les critères d'élection, les critères empiriques d'élection d'un mot comme celui-là, comme le mot posture aujourd'hui, j'en retiendrai 3 sur le plan empirique. D'une part, donc, la récurrence, le fait qu'il indique une tendance lourde dans la lexicalité contemporaine. Deuxièmement, son côté historique, si on veut, c'est-à-dire le fait qu'il marque vraiment un moment dans l'actualité. Hein, il correspond plus ou moins à ce qu'un ancien... Parce qu'un vieux lexicologue comme Georges Matoré après les mots témoins, c'est-à-dire des mots qui font une photographie d'époque ou d'un moment de l'histoire. Et troisièmement, donc, troisième critère empirique, la transversalité, le fait que la récurrence n'est pas limitée à un domaine, mais qu'on trouve ça aussi bien dans la langue populaire, dans les journaux, que dans certaines sphères du savoir et même du savoir littéraire. Je vais vous donner quelques exemples tantôt qui montrent que nous sommes fortement atteints par cette viralité qu'indiquait mon titre, posturite VH1N1. À ces critères empiriques font écho 2 critères qui, eux, sont plutôt idéologiques. Ceux-ci respectent d'ailleurs assez bien l'entreprise de Barthes dans l'introduction des mythologies. Il dit « Je fais à la fois de la sémiologie spontanée et, deuxièmement, j'amorce une critique idéologique. » Donc il faut que le mot, disons, masque ou déforme quelque chose, qui n'est donc une sorte d'aspect leurre, hein, c'est un masque, c'est un leurre, et là, on est proche d'une vieille conception de l'idéologie fausse conscience dont on doit aussi un petit peu se méfier. Et deuxième critère idéologique, il passe aux yeux de beaucoup de locuteurs, ce mot-là, pour une valeur, alors qu'en fait, une fois qu'on regarde un peu de près, il n'est qu'un indice. Bon, ben le mot posture correspond à peu près à tous ces critères-là, il y répond. Donc il est archi-récurrent, si vous pitonnez... posture sur Google, vous allez avoir 17 600 000 résultats. Si vous raffinez un petit peu en mettant la posture 2, vous êtes dans les 30 millions, quelque chose comme ça. C'est un mot qui est innervé par l'actualité. Dans les plus grandes revues branchées, vous trouvez le mot posture régulièrement appliqué à un tas de choses. Et ensuite, je vais vous montrer qu'il répond à ce critère empirique de transversalité. Il est là dans la mode, dans la politique, dans la sociologie et ailleurs. Au départ, un petit rappel, le mot posture a un sens en français, il renvoie à la posture du corps, c'est la manière de se tenir. Deuxièmement, il y a un sens figuré, un état devant une situation morale ou une situation sociale. Troisièmement, un sens qui, paraît-il, d'après le Robert, est spécial à la Belgique, mais ça m'étonne un peu, il me semble que ça rayonne un peu au-delà. Une posture, c'est une statue. Effectivement, ma grand-mère me disait, fais attention à la posture sur la cheminée. Une espèce de petite chose, là, c'était une posture. De ces définitions, là, sont issues une série de savoirs. Donc, il existe bien une posturologie clinique qui analyse la façon dont les êtres humains ou les animaux se tiennent avec leur corps. Le yoga a ses postures innombrables et d'autres gymnastiques aussi. Du côté empirique, du côté figuré, donc état devant une société donnée, cela a donné naissance en épistémologie des sciences sociales à toute une série de travaux qui analysent la posture du chercheur par rapport à son objet. Ça se trouve en sociologie, ça se trouve aussi en didactique, par exemple. Je sors là de ces premières applications qui relèvent, à mon avis, plutôt de la signification que vraiment du sens, et du sens historique et sociodiscursif que je recherche. Et là, m'en allant vers le discours social récent et contemporain, je suis tenu de prendre note d'une médiation qui a été celle du mot « attitude ». Le mot « attitude », pendant 5 ou 6 ans, a fait illusion. C'était une mauvaise traduction de l'anglais. On rencontrait ça très, très souvent, il y a donc une dizaine, 10-15 ans, dans les rues parisiennes, sur les panneaux publicitaires et compagnie, avec un langage tout à fait marrant qui faisait que on ne parlait pas d'avoir une attitude, mais on parlait d'avoir la Agassi attitude, ou bien la Mick Jagger attitude, ou la Madonna attitude. Il y avait des pubs pour la rock'n'roll attitude, pour la Levi's attitude, etc., etc. Et donc c'était une formation étrange, puisque là, l'un des substantifs devenait en fait le qualificatif. Agassi devenait la qualification du mot attitude. J'imagine que justement, la traduction n'étant pas tout à fait subtile sur le plan performatif, que cela a fait que le mot attitude rapidement décru dans son emploi, et qu'il a été remplacé, à mes yeux en tout cas, par le mot posture, qui est donc partout. Voici quelques exemples que je vous livre afin de vous montrer l'essaimage et la migration du signe. Et je vous assure que j'en ai beaucoup plus que ça. J'en choisis un par domaine de l'existence. Du côté de la vie sociale, par exemple, vous entendrez parler ou vous lirez des choses qui parlent de la posture hypocrite des hommes roses. Ça, c'est au Québec. En pédagogie, la posture de l'enseignant en classe maternelle doit être une posture de l'accompagnateur. Les artistes au Québec, figurez-vous que la posture de nos artistes sur scène varie selon leur tempérament. C'était un des titres de la presse la semaine dernière. En philosophie, on parle de la posture de l'être, à ceci afin de parler de la philosophie d'Heidegger. En psychanalyse, j'ai lu récemment que l'école freudienne a beaucoup étudié la posture maternelle. Dans les relations publiques, rentrez chez vous ce soir, écoutez le machin qui s'appelle Mirador, la série Mirador, vous verrez, ça va parler de posture inévitablement. En ethnologie culturelle spontanée, le 25 janvier 2010, au journal TV de Radio-Canada, un intellectuel haïtien a dit « Le haïtien se caractérise par la posture du croyant ». Puis il a eu un instant de réflexion, il a repris, il a dit « La posture de croyant, ça, c'est le haïtien ». En sport, nous sommes inondés de postures. À Melbourne, après Kim Clijsters, et Justine Hénin a pris la posture de la revenante. En vie pratique, là, il y a une série de choses. La posture de travail à l'ordinateur est mauvaise pour un tas de choses, vous le savez. Je note dans Jean-Marie Klinkenberg, et c'est dans son livre sur les mythologies, ce discours, dit-il, le discours négatif à l'endroit de la Belgique, correspond à la posture actuellement la plus branchée. J'ai mis ça dans la vie pratique, parce qu'il me semble que c'est assez répandu, effectivement. Vie militaire. Les militaires adorent les histoires de posture, et... Figurez-vous que c'est une posture enthousiaste qui fait la force, la grandeur et l'efficacité des parachutistes. Je vais sauter la littérature à garder pour plus loin. En politique, c'est effrayant. Là, on en a partout. Sarkozy, notamment, déchaîne la presse française à plus d'un égard. On parle de son étrange posture à l'égard de la Tunisie. Royal ironie sur la posture de victime de Sarkozy. Mais il se dit, je ne sais plus qui, que Sarko à Copenhague était dans une posture électorale, etc., etc. Le Figaro a fait des jeux de mots dans la campagne présidentielle où Ségolène Royal est opposée à Sarkozy, parlant de la posture royale, sans eux à la fin, bien entendu. Libération a le pompon. Libération est vraiment accro à la posture, vous en verrez à peu près partout. Du genre l'incroyable posture mentale d'impuissance du Premier ministre Jospin, qui a dû être content de voir devant ça. Dominique de Villepin, lui aussi, a une posture de calculateur, ou une posture de victime, ça lui est souvent reproché. Le PCF a une posture de survie. Sarkozy a une posture gaullienne. Bayrou en a une ou deux qui ne sont pas mal non plus. Je ne la trouve pas, mais pour Besancenot, ceci, il a du mal à convaincre que la posture révolutionnariste, 100% indépendante du PS, sera payante. etc., etc. Ce n'est que quelques exemples. Il y en a un beau aussi, la posture du losange chez Angela Merkel, qui correspond au fait qu'Angela Merkel, quand elle parle, elle fait toujours un losange qu'elle met au niveau du nombril, dans le meilleur des cas. En littérature, maintenant, nous sommes aussi inondés de commentaires comme ça. Exemple, Flaubert est l'inventeur de la posture du romancier ermite culte d'une petite élite. Autre exemple littéraire peut-être. Oui, Sartre est connu pour sa posture existentialiste. Quant à Welbeck, sa posture correspond au devoir d'être abject. Voilà. Et si nous allons du côté du savoir, ben, en sociologie récemment, on a vu arriver le mot très fortement chez les néo-bourdieusiens contemporains, où, reprenant un mot qui était avancé par Bourdieu en 1961 déjà, légèrement corrigé par Viala, on a là toute une série d'expressions qui renvoient donc à la posture des écrivains, avec une sorte de trisotinisme universitaire habituel dont nous sommes tous coupables. Donc on va parler de la posturalité de la littérature, de l'analyse posturale, de la posturité, c'est délicat à définir par rapport à postérité. Et voici dans l'école bourdieusienne ce que ça donne, j'en ai là une cinquantaine, je vais vous en faire une vingtaine peut-être. Sandrars, la posture du bourlingueur, Céline, la posture du paria, Éric Nomo, posture d'écrivain raté et aigri, la posture de combat des écrivains féministes, la posture d'écrivain engagé d'Albert Camus, Jean-Noël Blanc adopte la posture des hommes pressés, les postures confites et courantes de la littérature française contemporaine, la posture d'écrivain masculin, la posture filiale de Chamoiseau, la posture de l'autobiographe n'est pas celle du romancier, la posture érotique de Christine Angot, et de toute façon, tous ceux-là, quand ils parlent, ont une posture d'écrivain. Je m'arrêterai là. Moi aussi, je fais mes 10 minutes, 30 secondes.
Merci. Est-ce qu'on pourrait parler de la posture folle de Nelligan et de la posture suicidaire de Libérac, hein?
J'ai l'impression que ce soit effectivement un critère d'identité.
En vous écoutant, Benoît et Pierre, j'ai pensé à un passage de l'ouvrage de Jean-Marie Klinkenberg qui porte sur la novlangue. Simplement lire ce petit passage. Donc, une novlangue gentille et discrète, soft même, mais une novlangue puisqu'elle empêche quiconque d'introduire la disharmonie dans le consensus. Comme la novlangue, l'hypertechnicisme et le politiquement correct entraînent un déficit de démocratie. J'ai une question toute simple qui se greffe à ce passage. Que trahit la prolifération, par exemple, du mot leader ou du mot posture? D'après vous, c'est une grosse question, je sais, mais...
En fait, il me semble qu'on a là, dans certains cas, c'est l'inversion d'un échec en réussite. Dire que le Québec est le leader du décrochage scolaire ne me semble pas être une chose particulièrement positive. Mais ce mot-là, c'est un peu comme le mot posture, c'est un mot qu'on va réutiliser à toutes sortes de sauces. Et donc, il comporte toujours, dans la connotation, il y a toujours cette dimension de réussite. Alors, évidemment, un jour, on finit par s'apercevoir. Alors, attitude ne marche plus et on va prendre posture. Leader va être trop utilisé. Et donc, on va prendre chef de file. Mais on est exactement dans la même logique, donc, qui consiste à masquer un certain nombre de choses, masquer des choses qui sont déplaisantes et qu'on ne veut pas dire, et on va les inverser comme ça en d'autres mots. Alors, novlangue, oui, mais il y a aussi des gens qui ont utilisé d'autres expressions qui vont dans le même sens, hein, langue de ouate, langue de coton. Alors, ce sont des langues qui font disparaître effectivement les aspérités sociales, qui montent en réussite quelque chose qui devrait être un échec, qui montent en réussite quelque chose qui est propre. Tout simplement de l'ordre de la description, mais là, subitement, on entre dans la valorisation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de ce rêve de grandeur. Il me semble qu'un mot comme leader ou chef de file révèle ça, pas tout seul, évidemment, de la même façon que le mot posture tout seul ne veut rien dire, c'est la prolifération. Quand on prend ce mot-là et qu'on le voit revenir, alors, comme Pierre a des dizaines d'exemples, des centaines d'exemples de postures, j'en ai des dizaines de leaders ou de chefs de file, c'est la récurrence, c'est le fait de l'utiliser dans toutes sortes de domaines. Alors, j'ai pris deux ou trois domaines, mais évidemment, je pourrais faire exactement le même exercice avec la prose sportive, avec la prose culturelle. Il a essaimé. Et c'est ce genre de mot-là, me semble-t-il, qu'il faut étudier, qu'il faut mettre en lumière, parce que ça nous permet effectivement de réfléchir plus avant. Alors, le mot leader tout seul veut rien dire. Sa récurrence veut dire quelque chose, et quand on le prend et qu'on l'arrime à autre chose. Là, on arrive à essayer de faire advenir du sens. Donc, on est effectivement dans la sémiotique. Là, on voit des choses qui, toutes seules, ne veulent rien dire, mais qui, mises en relation, doivent nous permettre de penser, bon, dans le cas qui nous intéresse, l'image même qu'une société veut donner. Et c'est ça, en fait, le mot leader, c'est ce que le Québec veut révéler de lui-même. C'est l'image du battant, c'est l'image de la détermination, c'est l'image du leader.
Et dans le cas de posture, c'est un peu plus complexe. Qu'est-ce qu'on veut révéler en adoptant cette coquille vide, finalement?
Ben, elle n'est pas tout à fait vide, puisqu'on y met de l'investissement idéologique, mais il y aurait beaucoup de cordes à gratter pour essayer vraiment de comprendre le succès d'un mot pareil aujourd'hui. On verra au moins deux. Je veux dire, il est sûr que c'est un mot. Le mot attitude venait donc de Madonna, d'Agassi et compagnie. Donc il y a l'influence des médias télévisuels, il y a un côté théâtral dans mot posture aussi. Et donc ça marchait assez bien. Puis je veux dire, l'influence que peut avoir l'internet, la télévision, fait qu'il devient assez commode aujourd'hui de se dire que on voit quelqu'un qui apparaît, il est en représentation. Donc, mais enfin, entre dire il est en représentation et puis il a la posture 2, c'est là justement qu'il y a un jeu délicat et qu'il faut analyser, parce que moi, ce qui m'afforde dans le mot posture, c'est son côté statique. C'est-à-dire, en plus, je suis belge, donc je sais que chez moi, effectivement, il y avait une statue sur la cheminée, et puis bon, la statue, elle ne bougeait pas beaucoup, hein, c'était pas terrible. Et donc, il y a là une sorte de fixité, j'ai l'impression que ça crée un objet de fascination, carrément. Dans le domaine littéraire, ça, c'est la deuxième chose que je dirais, ça m'afflige terriblement, dans la mesure où je me semble voir par là. Je ne vais pas rentrer dans les discussions, par exemple, en tout cas pas tout de suite, du modèle bourdieusien, ce n'est pas ça l'objet, mais il me semble qu'il y en a une façon de ne pas parler surtout de la mouvance du texte. C'est-à-dire, à partir du moment où je dis, je ne sais pas moi, un élégant à la posture du jeune adolescent, je vais lire tout élégant cherchant où est la posture de l'adolescent, mais c'est très, très évanescent, c'est de la poésie, donc je veux dire, ça va bouger beaucoup plus que ça. Et là, dans les textes que je lis souvent, quand je vois apparaître ce mot-là, c'est un désespéré de la littérature, enfin plutôt du commentaire sur la littérature.
Mais justement, cette posture qui renvoie à la fixité, moi on me disait « surveille ta posture », donc ça signifiait bien sûr de tenir bien droite. Alors oui, si vous avez des questions, il faudra emprunter le micro.
De ce point de vue-là, le mot « posture » est vraiment très très intéressant, puisqu'il renvoie à l'immobilité, mais tout ce que nous étudions, c'est toujours ça. Il s'agit d'arrêter le sens, hein, chaque fois, de le rendre manipulable, acceptable, transmissible, bien empaqueté. C'est toujours ça, le processus qui est derrière. Mais le mot posture, en plus, dénonce la manœuvre.
Oui, c'est moins une question qu'une remarque. Dans les exemples que tu donnais, ce que je trouve inquiétant, c'est la confusion dans le mot posture de position et de prise de position et de pose. Et donc du vrai et du simulé. Et je ne sais pas si.
Oui, mais là, on est dans le modèle bourdieusien. Je veux dire que je parlais de ce que je connais le mieux. C'est-à-dire que là, tu as d'un côté un prêt d'intentionnalité, parce qu'on adopte une posture, on l'apprend. Donc il faut supposer que Houellebecq se dit en écrivant « je me dois d'être abject » et qu'il le décide, c'est quand même fort. Bon, il faut vraiment imaginer ça comme ça. Puis deuxièmement, tu as un effet qui dit « non, c'est pas du tout ça ». Le modèle bourdieusien va dire « non, c'est un effet de pression de la structure du champ qui fait qu'il va adopter ta posture ». Alors là, tu vas lire Nathalie Heinick qui va te dire « bon, voilà, c'est évidemment le beurre de la paranoïa de l'intentionnalité augmenté de l'argent du beurre de la caution scientifique ». Parce que, hein.
Oui. Ça me ferait pire en littérature. Tu sais, quand André Baudet a publié « Littérature d'imposture », au moment où le terme a commencé à être utilisé en littérature, au contraire, il n'y avait pas cette fixité, c'était « position » avait ce sens-là. On défendait une position, on incarnait une position, on la défendait jusqu'au bout, et au contraire, si on adoptait une posture, c'est parce que demain, on pouvait changer de posture, on pouvait changer de... Alors, le terme est intéressant, je pense, quand il est apparu dans les années 80, comme terme critique, mais que très rapidement, de ce que tu constates maintenant, c'est sa récupération totale, le fait que c'est devenu un stéréotype, qu'on réfléchit même plus sur qu'est-ce que le mot apportait de comme élément critique par rapport à position.
Oui. Mais politiquement, c'est aussi assez grave parce que tu ne comment dire, tu ne peux plus avoir de distance dialectique par rapport à un message. À partir du moment où tu dis, Ségolène Royal prend la posture de la candidate déchue, enfin, je ne sais pas quoi, un résumé à ça, et puis c'est fini. Donc, ce qu'elle dit n'a même plus d'importance. Mm-hmm. Moi, je voudrais peut-être poser une question à Jean-Marie, mais aussi à des gens dans la salle. Dans les mythologies que tu as prises là, ma question pour toi, c'est celle-là. Tu parles par exemple d'opposition structurale de deux clubs de foot, Anderlecht-Bruxelles, puis le Standard de Liège. Je dirais qu'ici, peut-être bien, ça fait ma question que je pose à Benoît, à tout le monde. Est-ce que ici, on pourrait dire, par rapport à ce que tu dis toi, puis je t'invite peut-être à représenter cette mythologie pour que tout le monde sache de quoi ça, il s'agit. Est-ce qu'on mettrait par exemple les Nordiques contre les Canadiens? Est-ce que ce serait une mythologie québécoise?
Les Nordiques n'existent plus.
Oui, d'accord, mais enfin, Boston, ça me paraît moins vendant.
Qu'est-ce que je dis là-dessus? Ça, c'est une pochade.
Il n'y a pas une équipe à Toronto.
Non, mais pendant que Jean-Marie prépare sa réponse.
Mais j'ai pas de réponse, c'est une pochade, un peu. C'est un jeu, ceci, c'est pour montrer, c'est la machine qui s'emballe, c'est pour montrer que le structuralisme est fait d'opposition. Et alors, c'est vrai que l'opposition footballistique à Anderlecht Standard est capitale, comme chez les cyclistes jadis, Bartali et Coppi aussi a permis de structurer l'univers du cyclisme. Donc je me suis amusé à plaquer évidemment toutes les oppositions possibles. Ça se termine, si vous voulez savoir, par le Standard c'est Aristote, Anderlecht c'est Platon. Mais c'est un résumé un peu rapide.
Y a-t-il des questions dans la salle?
Peut-être dans la ligne de ce qu'on vient de dire. Est-ce que une structure qui a été beaucoup à la mode il y a une vingtaine d'années, et qui est justement évoquée ici, puisqu'il s'agit aussi de structure ou de posture, aurait été remplacée par posture ou quelque chose du genre? Est-ce qu'il y a là une marque du moment historique et de l'évolution?
Ah, pour posture, oui. Je pense que vraiment...
pensée collective.
Le succès de posture aujourd'hui est vraiment fort. Structure m'apparaît beaucoup moins fréquent actuellement. Et structuralisme est complètement maudit.
Out.
Oui, il faut vraiment en parler avec une forte ironie.
Et ce serait relié à quel genre de mouvance dans les courants idéologiques?
Bon, il y a une critique du structuralisme qui nous a, disons, prêté le fait de n'analyser que des choses causes. Et donc, c'est un petit peu... ça a été, disons, déconsidéré pour cela. Puis il y a aussi les effets de mode intellectuels, enfin, et puis une certaine usure aussi du structuralisme, enfin, je sais pas, des choses comme ça. Tout autre chose.
J'essaie de...
C'est que dans le structuralisme, le sujet est en quelque sorte lié entre parenthèses, parce qu'il va jouer dans la structure et que c'est la structure qui l'oblige à rester dans ce cadre. Tandis qu'une fois qu'on est dans la posture, on peut se centrer rien que sur le sujet et le voir bouger. Et donc, on se met dans un axe qui est celui de la durée de chaque être vivant et non plus dans l'axe de ce qu'on peut comprendre et où tout le monde est obligé de se placer pour signifier quelque chose. Oui, mais c'est une sorte de renversement complet de l'approche scientifique, si je peux dire. Enfin, non, intellectuelle.
Oui, je vais essayer de m'exprimer clairement. Chaque instant qui passe, chaque instant que l'on vit, c'est un instant qui est arraché, vaincu au néant. Et que ça, c'est vrai aussi pour une langue. Alors, nous sommes ici pour entendre parler de certaines particularités par rapport à la mythologie. Or, je ne crois pas que vous ayez, enfin, pour moi, que vous ayez bien défini ce que vous entendiez par mythologie.
Certainement.
Oui. Il y a évidemment le singulier, la mythologie, et il y a le pluriel, les mythologies. Ça désigne peut-être pas tout à fait la même chose. Mais dans tous les cas, il s'agit d'un discours construit. Donc ça peut être un récit, quelque chose qu'on se raconte. Ça peut être l'origine d'une population, ça peut être un discours où on explique pourquoi elle est comme ça, où on décrit simplement sa psychologie collective. Donc c'est toujours une mythologie, c'est toujours un récit. Alors ce récit, deuxième trait de caractéristique, puisqu'il faut essayer de faire le professeur, il a quelque chose, il a une fonction explicative et justificatrice. On pourrait ajouter que cette explication et cette justification, qui est aussi le lot de la science, la science fait des discours et la science explique, la mythologie a quelque chose de totalisant. Et par cela, il se distingue du discours scientifique qui s'offre à l'argumentation, à la discussion, et qui du coup est toujours dans un état d'équilibre. Le discours mythologique est toujours donc un récit explicatif totalisant. Voilà donc ce que je fabriquerai comme définition, là, pour parler clair.
J'avais bien entendu ça.
Ah.
Mais il me semblait que vous trois aviez des anecdotes particulières sur la langue et sur les mots. Et que...
Oui, alors moi, en écoutant Pierre, il y a une chose qui m'a frappé. Et en lisant Jean-Marie, c'est la chose inverse qui m'a frappé. Ce que montre Pierre, c'est combien le mot posture marche dans toutes sortes d'univers discursifs. Mm-hmm. Il est en France, il est en Belgique, il est au Québec. Et donc, il y a là une circulation des énoncés. Alors, c'est lié à la médiatisation, c'est lié à Internet, c'est lié à toutes sortes de choses de cette nature. Tout ça faisant que certains des mots qui, à une certaine époque, auraient été limités dans un espace, aujourd'hui sont dans la transversalité. Ils circulent partout. Alors, et inversement, en lisant les petites mythologies belges, alors même si j'ai une fibre petite belge, il y a des moments où j'étais parfaitement largué. Alors, on est dans la particularité, là, très forte. Et on voit bien que la langue, en fait, aujourd'hui, elle est prise dans ce réseau-là. Hein. D'une part, il y a des choses qui circulent très, très largement et qu'on entend absolument partout. Le mot « extrême », sur lequel on pourrait faire exactement le même genre de démonstration que sur le mot « posture », marche partout dans le monde et il marche aussi bien en français qu'en anglais. Et donc, il y a là vraiment une généralisation tout à fait étonnante. Et on est devant cette généralisation-là pour la première fois. Alors, c'est la première fois que les choses circulent aussi rapidement, aussi largement. Et en même temps, il y a à côté de ça des choses qui restent du côté du particulier. Ce que je raconte sur le « on s'entend-tu que » me semble parfaitement limité à une ère linguistique, à une ère géographique. Et donc, le travail que nous essayons de faire à partir d'un certain nombre de mots pour essayer de voir ce qu'ils signifient, évidemment, change complètement de nature. Selon que le mot qu'on utilise, il marche bien dans un contexte, il est facile de le rapporter à un certain nombre d'attitudes, de situations, voire de personnes. Et donc, ça peut marcher comme ça. Alors qu'un mot comme posture est beaucoup plus complexe parce que là, il est nourri de toutes sortes d'alluvions qui viennent d'un peu partout. Des millions d'occurrences, là, c'est ça. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour travailler sur un objet comme ça? Là, il y a une vraie difficulté. Quand on prend un mot qui circule dans un milieu restreint, on peut dire qu'il correspond à tel type de personne, puis il s'insère dans tel discours, puis il veut dire à peu près telle chose. On s'entend-tu que marche comme ça? Posture peut pas être analysée comme ça. Posture suppose d'autres types de réflexions. Ça me paraît parfaitement intéressant, mais surtout parfaitement nouveau. C'est la première fois qu'on est confronté à ce genre de difficulté qui nous oblige à repenser notre rapport à la langue. Alors, sur quelle échelle est-ce qu'on se place? C'est ça un peu la difficulté.
Donc, il y aurait une posture de la langue elle-même.
Ce n'est pas moi qui l'ai dit.
Y a-t-il d'autres questions dans la salle?
Oui, et l'imposture?
L'imposture. Qu'en est-il de l'imposture? La posture est-elle
une imposture? Je pense qu'elle est une imposture. J'en ai aucune idée, parce que c'est pas vraiment le mot que j'ai suivi à la trace, mais il me semble qu'il n'y en a pas trop la cote aujourd'hui, l'imposture. Il me semble que c'est un mot un peu daté, finalement. Peu de gens veulent être des imposteurs actuellement.
Mais le fait peut-être la cote.
C'est l'imposture qu'on peut définir parce qu'on a défini posture, non? Ah oui, peut-être, oui. Notez que certains.
La posture de l'imposteur.
Oui.
Voilà, beau titre de je vois bien un essai en librairie. La posture de l'imposteur, ça doit marcher. Hein.
C'est vrai, j'ai lu aussi une
allez,
phrase.
Allez, je dépose le titre tout de suite.
J'ai lu aussi une phrase de quelqu'un qui disait « Un écrivain de gauche ne peut pas avoir la posture de l'écrivain. »
Ah oui.
Oui. Ça suppose qu'on accorde une définition bien précise à la posture de l'écrivain.
Oui, je crois, oui.
Merci.
Et l'expression « en mauvaise posture », elle est assez attrapée.
C'était surtout employé par les militaires, autrefois, sur le champ de bataille.
Oui.
Quand le maréchal Ney à Waterloo a envoyé une estafette à Napoléon, disant « je suis en mauvaise posture, il me faut de l'infanterie », l'empereur a répondu « mais où veux-tu que je la prenne, veux-tu que j'en fasse ?»
Alors, en tout cas, j'ai appris que Pierre Provost est un expert en art militaire, en tout cas, à travers cet échange.
Mais en ce qui concerne la circulation du mot posture que tu as noté, il me semble que, contrairement à attitude, posture, justement, ne se retrouve pas seulement dans un discours publicitaire, on le retrouve aussi dans le discours savant. Ouais. Et ce qui me semble... fort différent de plusieurs des mots qui se retrouvent dans le dictionnaire québécois instantané. En général, les mots font plutôt partie du discours médiatique.
C'est pour qu'un mot, alors évidemment, on s'est posé la question. Le danger quand on fait un dictionnaire comme celui-là, donc qui est une réflexion sur l'ère du temps linguistique, c'est de tomber dans le jargon de ce que nous faisons tous les jours. Donc, il est évident qu'on aurait pu mettre là des termes qui relèvent de ce que nous entendons quand nous discutons avec nos étudiants, de ce qu'on entend quand on lit, de ce qu'on trouve dans des textes scientifiques. Et donc, on s'est un peu méfié des trucs qui étaient un peu trop techniques, mais manifestement, la démonstration de Pierre est claire. Le mot posture n'est justement pas un mot du jargon, ce n'est pas un mot technique. Il a une utilisation technique dans certains types d'analyse, mais il traverse. Et c'est ce genre de mots-là qui nous a intéressés, plus évidemment que les mots très spécialisés. Et donc, qu'est-ce qu'un mot qui, effectivement, se fait entendre partout, signifie des choses différentes, évidemment, pour toutes ces personnes-là, pour les néo-bourdieusiens et pour les gens qui font des textes sur la posture du gardien de but des Canadiens, on ne parle pas de la même chose. C'est ça qui est intéressant, c'est que ces mots-là deviennent parfaitement plastiques, ils traversent l'ensemble de la société, ils signifient des choses différentes. On ne sait jamais très bien, d'ailleurs, ce qu'ils signifient. C'est l'intérêt de ces mots-là. On peut les utiliser à toutes sortes de sauces. Le mot « attitude », hein, veut dire toutes sortes d'affaires, mais on n'a pas besoin de lui donner une définition. On a l'impression spontanément qu'on y adhère. Et c'est ces mots-là qui marchent. On voit parfois des gens essayer d'inventer des termes. Gilles Duceppe, le chef du Bloc québécois, lors des fêtes de la Saint-Jean, a essayé d'inventer un mot cette année. Alors, il existe en anglais des méchants réactionnaires qui sont des « rednecks ». Il s'est dit, tiens, on va trouver l'équivalent pour les méchants nationalistes bornés québécois, et donc on va les appeler les coups bleus. Non, ça ne marche pas. Le caractère artificiel de ça ne veut, c'est trop associé à une lecture politique de certains groupes, etc. Ça n'a eu aucun écho. Le mot posture, personne ne le définit, et subitement il se met à essaimer. Ce serait assez difficile, mais on pourrait essayer d'en suivre l'évolution. Et parce qu'il est plastique et peu défini, au contraire, il marche. C'est ces mots-là qui sont intéressants, c'est ceux qui, justement, circulent sans qu'on sache très bien d'où ils viennent et sans très bien savoir ce qu'ils veulent dire. Et là, à partir de là, notre travail à nous, c'est de dire, bon, qu'est-ce que ça veut dire dans tel contexte que de prendre tel mot? Et là, nous essayons de lui donner un sens, mais il est évident que sa popularité ne vient pas de son sens. Elle vient, justement, de sa faiblesse, d'une certaine façon, du fait que ça peut recouvrir toutes sortes de choses. Et donc, quand on cherche les mots qui sont dans l'air du temps, c'est de ça dont il faut se méfier. C'est des trucs parfaitement spécifiques qui vont passer, qui vont disparaître, et les autres qui vont rester. Je vous disais le mot extrême tout à l'heure, il n'y a rien à faire. Le mot extrême, il est quotidien. Le mot extrême est un mot qui a été utilisé pour le repassage. Mais j'ai des centaines d'exemples du mot extrême, notamment pour le repassage extrême. Le rembourrage extrême, j'aime bien ce genre de choses. Ça ne veut rien dire. Mais il est partout. Et là, il faut voir pourquoi on l'utilise. Il y aura probablement moyen de goupiller, d'ailleurs, attitude extrême. Il y a quelque chose de l'ordre de l'imposition de soi, de la force. Voilà le travail à faire.
Ben, c'est sûr, cependant, que dans ce qu'on a fait là, aussi bien dans le relevé qu'on a fait, les deux relevés qu'on a fait avec Benoît, ou bien dans le livre de Jean-Marie, on se donne quand même la liberté, là, du pittoresque et de l'essai. Hein. On n'a pas théorisé, je veux dire. Non, chez Jean-Marie, ton dernier texte, quand même, là, met des choses en place. Mais On n'a pas vraiment théorisé ça. Si moi je devais vraiment faire un texte sur sur l'homoposture, je commencerais à me poser à moi la question de la définition même de mes notions. Est-ce que j'appelle ça un mot du jour, un mot de passe culturel, ou bien un signifiant qui, tu vois, il y a une série de choses là, mm-hmm. qui peuvent s'offrir en recourant soit aux travaux des lexicologues, des sémanticiens, des gens qui font de la sémantique historique, ou alors carrément à l'analyse de discours. Mais là, il faudrait commencer par là, à mon avis, si on voulait faire un travail vraiment universitaire, académique, pour penser ce type de Gosset.
Est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que limite, c'est en train d'envahir autant le Québec que la
Belgique? Quelle limite? C'est vrai que c'est ça. Quelle limite?
Quelqu'un écœuré, il va dire, ah, c'est limite.
Personnalité limite, borderline.
Oui, ben une des difficultés de ce qu'on fait, évidemment, c'est de réussir à repérer, à distinguer ce qu'on repère chacun pour soi, le mot qu'on entend, on se dit, tiens, ça c'est bizarre, des mots qui effectivement traversent l'ensemble. Alors, le mot limite ne me frappe pas, il vous frappe vous. Donc c'est là où il y a la difficulté. Hein, et c'est pour ça qu'un outil comme Internet est amusant, parce qu'on peut dire, tiens, il est où ce mot? Est-ce que c'est vrai qu'il apparaît? Parce que chacun, hein, on souffrent tous d'une hypertrophie de la glande grammaticale. Et donc, chacun a ses bêtes noires, chacun entend des choses et me dit, ah ben, tiens, ce mot-là, non, j'aime pas ça, ou j'entends partout. Et dans d'autres cas, on repère des choses et les gens nous disent, non, j'ai jamais entendu ça. C'est ça le travail, et il faut dire, bon, il faut essayer de voir, tout en conservant le plus élevé facteur de plaisir possible, les mots qui sont effectivement assez généralisés, sur lesquels on peut tirer pour essayer d'expliquer quelque chose, et qui peuvent être amusants aussi. Limite n'est pas un mot qui me frappe, mais peut-être que si je faisais la démonstration, j'essayais de faire la démonstration, j'y arriverais. En revanche, je vois le mot extrême partout. Ça tient à la fois à mes idiosyncrasies et à la popularité du mot, mais c'est en bonne partie le fait que je suis moins sensible à ce mot que je vois partout. Pierre doit voir maintenant, à l'état éveillé et à l'état endormi, partout, le mot posture.
Raisonnablement.
Je crois que pour bien percevoir aussi ce jeu-là, il faut redevenir un tout petit peu bourdieusien et voir qu'il y a un désir des faits, et ce désir des faits repose assez fréquemment sur deux ressorts, qui est d'une part l'intensité. Alors on dit d'abord extra, puis on dit super, puis on dit hyper, et après on doit aller évidemment du côté des litotes, parce qu'il y a une usure. Et d'autre part, on voit du côté de la distinction aussi, qui, donc posture, a quand même quelque chose de chic. C'est plus chic qu'attitude, ça relève. Et bien sûr, ça va aussi se démonétiser à un moment donné. À partir du moment où quelqu'un utilise, nous savons que quand une monnaie se répand, ben elle perd de sa valeur. À partir du moment où tout le monde parle de posture, il est évident que une intelligentsia remplacera la posture par autre chose. Hein, c'est évident.
Scalise n'est pas sûr du tout que le mot soit passé, ait été imposé par l'intelligentsia. Je ne pense pas, même dans ce cas-ci.
Non, mais l'effet est quand même celui-là. Hein, il y a un effet chic dans la posture.
L'effet de mode, en tout cas. Que ce soit chic, posture par rapport à attitude, je ne suis pas sûr.
Quand on dit que tel politicien a la posture de la candidate perdante, on se donne légèrement, l'impression qu'on est un fin analyste de la situation politique.
L'exercice qu'il faudrait faire,
c'est un peu plus que du café du commerce. Quoi. On dit je ne fais pas du café du commerce.
L'exercice ce serait de se demander ce que posture remplace. Et donc pour mesurer cet effet de chic. On aurait dit quoi avant? On aurait dit attitude à une époque. On aurait dit position. On aurait dit prise de position. Donc, c'est en fait ça. On est dans un truc comparatif. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on est dans un effet de chic au moins relatif. C'est ce mot-là plutôt qu'un autre.
Oui, c'est ça.
Ouais, ça se correspond parce que Webren a pris les intensifs de classe. Enfin, c'est-à-dire que le gars qui dit au comptoir de la taverne, j'ai vu Jean Charest avoir la posture du vainqueur aux Indes, là, dans les Indes, le mot posture remplace quelque chose de vide. Et en fait, la vraie phrase, c'est Jean Charest était vainqueur aux Indes, ou bien Nelligan était un adolescent, et non pas Nelligan a une posture d'adolescent. Ce qu'il y a de formidable, c'est que le mot, effectivement, là, est là pour faire chic, si tu veux. Il y a comme un intensif.
Je vais peut-être trahir mon âge, mais il y a une utilisation du mot « posture » à la télévision de Télémétropole qui date d'environ 50 ans, un demi-siècle, et qui était « Le capitaine Bonhomme était en fort mauvaise posture ».
Voilà la mauvaise posture.
On est dans le registre militaire, militaire-marin.
Ces ressources figuraient du dictionnaire.
Tantôt, on disait que certains mots sont justement à la mode parce que ce sont des fourre-tout. Je me demande même si ce n'est pas plus extrême que ça et si ça n'englobe pas le fait que ces mots-là peuvent aussi bien avoir référé à une signification et à, presque à son contraire. Par exemple, le mot posture, tantôt, ça vous donnait une idée de stabilité ou de... Moi, au contraire, c'était une idée de mouvement. Et je me suis demandé si par hasard... C'est pas pour ça qu'il est à la mode, parce que il induit un peu un mouvement, mais parfois pour des choses qui sont un peu statiques, mais que comme on a l'idée du mouvement, ben ça traverse un peu le sens. Je ne sais pas, mais j'avais l'impression que à la fois ça peut dire une chose et son contraire, et que c'est pour ça que ce mot-là est riche, et que c'est pour ça qu'il est à la mode. Mais c'est peut-être juste une impression personnelle.
Mais je pense, je suis un grand écuménique. Que les deux sont dedans. Hein. Tu as rappelé le sens belge de posture. Quand j'étais petit, on jouait aux postures. C'est-à-dire qu'on était là en train de bouger, et puis quelqu'un criait, et alors on devait s'arrêter dans la position où on était, comme une statue. Rappeler ça me permet de dire que quand on fait référence à une posture, il y a effectivement un choix. Hein. Avoir la posture de l'adolescent ou avoir la posture du jeu, c'est mettre au point une stratégie où on va faire en sorte de donner cette impression. Mais une fois qu'on a occupé cette position, on l'occupe et là, il y a du statisme. Donc je pense qu'il n'y a pas une contradiction. Si on analyse posture, il y a un petit processus dans la posture. Il y a le choix et l'arrêt sur image, puisqu'il s'agit de donner une image. Donc, vous êtes sensible au premier aspect, le dynamisme. Pierre insiste davantage sur le deuxième, qui est l'arrêt lui-même. Je voulais vous mettre d'accord.
Cela dit, une fois que tu es devant le discours, tu n'es pas en train de jouer dans ton enfance. Une fois que tu es devant le discours, pour arriver à ce que tu viens de dire, il faut que tu prêtes une attention au locuteur que tu es en train d'écouter ou de lire. Et là, c'est très conjecturel quand tu es devant du discours ou du texte. Tandis que quand tu es enfant, tu sais ce que tu fais, tu veux jouer avec les autres.
Oui, mais c'est ce que je lis quand je vois une phrase où il y a le mot posture.
Là, tu as une lecture très particulière, c'est une épistémologie du soupçon. Ouais.
Cette position, et alors ça me rappelle un jeu d'enfant, vous avez parlé d'un autre, et c'est une mythologie belge. Quand on faisait des mimiques en Belgique et puis que ça ne plaisait pas aux adultes, ils disaient, attention, les cloches de Saint-Hubert vont sonner et tu resteras comme ça. Ça veut dire que la position qu'on s'est donnée, elle s'est subitement figée. Et dans l'usage du mot qu'on a aujourd'hui, on a à la fois une espèce de dérision en disant cette personne se donne un genre, elle prend la posture de, mais dès que le mot est dit, il est figé dans cette image-là qu'on a de lui. Et c'est comme ça que ça peut après qualifier un écrivain, un politicien. Donc il y a vraiment un aspect d'évolution dans l'usage du mot et même dans la manière de l'utiliser, dans le fait de dire.
Je me demandais si on n'aurait pas ce phénomène-là dans quelque chose qui est très répandu au Québec et qui commence à se répandre en Europe actuellement, c'est l'emploi de « tel » au lieu de « comme conjonction. On n'emploie plus « tel » comme un qualificatif, un substitut qualificatif, qui doit avoir un substantif auquel il se raccorde quelque part et auquel il s'accorde d'ailleurs, mais on l'emploie comme n'importe où, comme si c'était le mot comme et à la place du mot comme.
On a essayé là chacun de saisir soit des mythologies, soit un certain nombre de mots, essayer de voir ce que ça permet de révéler, mais essayer de circonscrire le domaine de ce que nous faisons est évidemment impossible. Chacun a sa position sur la langue, chacun repère des choses, vous entendez des choses que je n'entends jamais. Et donc, ce qu'on essaie de faire là, c'est de relever des aspects du langage qui sont effectivement plus massifs, donc plus faciles à repérer, mais ce sont
c'est nos oreilles à nous. C'est des choses que nous entendons et qui nous frappent, et à partir du moment où on en trouve un, on tire le fil et on essaie de les repérer. Mais vous pouvez tous, évidemment, vous faites tous la même chose. Vous entendez des mots, et subitement, c'est ces mots-là qui vous font accrocher. Alors, on a proposé, avec d'abord le Village québécois d'aujourd'hui, et ensuite le Dictionnaire québécois, un certain nombre de choses, qui sont les choses que nous entendions, qui sont nos choses à nous, hein, parce que c'est les choses que nous entendions et dont on parle entre nous. Il est évident que tout le monde peut faire exactement le même genre d'exercice. On a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent de faire ça et de repérer des choses, mais c'est une question de sensibilité, et on est dans l'idiosyncrasie très très forte. Hein. Il y a des choses que je n'entends jamais, qu'on me dit « tiens », et il y a des choses que je découvre, qu'on me fait découvrir un jour, et dire « oui, ça c'est vrai, je le savais sans l'avoir repéré ». C'est le propre de la langue.
Il y a d'ailleurs un appel à tous à la fin du Dictionnaire québécois instantané. Votre monsieur n'est pas content à cause d'un oubli, votre dame est stressée par un manque, ton jeune est uber déçu. Alors, vous pouvez écrire aux auteurs.
Nous recevons toujours les suggestions.
Qu'il y a d'autres questions?
On va parler de ta monarcho-platanique.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, je crois que je vais encore une fois m'inspirer du Dictionnaire québécois instantané et vous dire, en vous remerciant, bonne soirée à tous. Merci.
Merci à toi.